France Culture.
À voix nue, Géraldine Mosna-Savoie, cette semaine avec...
André Comte-Sponville, philosophe.
Troisième épisode, profession philosophe. Bonsoir André Comte-Sponville.
Bonsoir.
1998, vous voici libre. André Comte-Sponville, on vous retrouve alors que vous venez de quitter l'université, fort du succès de votre petit traité des grandes vertus qui est paru 3 ans avant, en 1995. Après 20 ans d'enseignement, d'abord en lycée, puis à la Sorbonne, c'est sur ces années d'enseignement que j'aimerais revenir avec vous aujourd'hui, André Comte-Sponville. C'était comment d'enseigner ?
C'est un beau métier, mais c'est un métier. C'est un métier, c'est-à-dire qu'on le fait d'abord pour gagner sa vie. C'est-à-dire que moi, ma vocation, ce n'était pas de faire des cours, encore moins de corriger des copies, c'était d'écrire. Mais comme il fallait que je gagne ma vie, évidemment, il me fallait un métier. Donc j'ai choisi, comme beaucoup d'écrivains ou de futurs écrivains, j'ai choisi l'enseignement que j'ai pratiqué avec facilité. J'étais bien programmé pour être prof, m'exprime clairement, je n'ai pas trop le trac, j'ai des rapports avec les gens plutôt faciles.
Cordiaux.
Oui, donc ça s'est bien passé, et même très bien. Mais d'un côté, alors, mon premier poste, j'ai commencé mon année de stage au CPR, comme on disait, j'avais une classe dans un lycée technique à Vitry, donc en banlieue parisienne. Et puis après, mon premier poste à plein temps, c'était à Landrecy, une petite ville du nord, dans ce qu'on appelle l'Avesnois, pas loin de la Belgique, où je suis resté 2 ans. Et puis après, j'ai enseigné 2 ans au lycée technique d'Auxerre, alors qu'à Landrecy, c'était un lycée classique. Ensuite, 3 ans, si je me souviens bien, à l'école normale d'instituteurs de Seine-et-Marne, à Melun. Et puis après, donc, j'étais nommé assistant, puis maître de conférence à l'université Paris 1, à la Sorbonne. Mais donc, pendant des années, j'ai fait cours à des élèves de 17-18 ans qui découvraient la philosophie. Et ça m'a conforté dans mon fondamentalisme. C'est-à-dire, quand vous faites cours devant des gamins de 17-18 ans, il est absurde de leur faire cours sur Derrida, Deleuze ou Foucault. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, je pense que Deleuze, Derrida et Foucault seraient les premiers à le dire. Et donc, faites cours sur quoi ? Bah, comme tout le monde,
sur
Platon, sur Épicure, sur Descartes. Donc, pendant des années, à chaque cours, chaque classe, donc en gros, j'avais 3 terminales par an, à chaque fois, je reprenais les méditations métaphysiques de Descartes, au début, le doute hyperbolique, le cogito, et éventuellement parfois les preuves de l'existence de Dieu. Et méditation métaphysique de Descartes, dont je continue de penser que c'est le plus beau livre de philosophie jamais écrit.
Je plus lis en que passant, les essais,
oui,
plus que les pensées
de
Pascal.
Je ne suis pas du tout cartésien, si vous voulez. Donc là, je ne parle vraiment pas pour mon église, je ne suis d'accord sur rien avec Descartes. Et je dis, ce livre est un chef-d'œuvre absolu. Je ne connais aucun livre de philosophie aussi beau, aussi profond, aussi dense, aussi clair que les méditations métaphysiques de Descartes.
Ça m'intéresse, André Comte-Sponville. Comment on peut trouver que c'est un chef-d'œuvre en étant d'accord avec rien ?
Mais parce que la philosophie, c'est pas un sondage d'opinion, c'est pas de savoir si vous êtes d'accord ou pas, c'est de savoir.
Ah, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'intuition quand même.
Est-ce que c'est intelligent ? Alors je vais vous dire, les méditations métaphysiques, c'est génialement intelligent. Le doute hyperbolique, c'est une aventure intellectuelle formidable. Le cogito, c'est une découverte philosophique, conceptuelle, mais en même temps existentielle, bouleversante.
Mais pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ça, André Comte-Sponville ?
D'abord, parce que je pense qu'on ne peut pas douter de tout. Je pense que le malin génie, donc le doute hyperbolique, c'est quoi ? Descartes constate qu'il a tenu beaucoup de choses pour vraies, alors qu'elles sont en vérité douteuses. Et pour se libérer de ses préjugés, il va essayer de penser que tout est faux. Non pas que tout est douteux, ce qui est en effet le cas, mais que tout est faux. Et donc il tord le bâton à l'extrême. Et considérant que tout est faux, dans sa pensée, il tombe sur une idée qui ne peut pas être fausse. Quelle idée ? Je suis, j'existe. Cette proposition est nécessairement vraie à chaque fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit. Parce que pour penser, il faut exister. Et donc quand je pense « je suis, j'existe », qui est la formulation du cogito dans la méditation, vous débouchez sur une vérité. Et donc vous avez une certaine idée vraie, ce que Spinoza appellera, lui, la norme de l'idée vraie donnée, ce que j'appelle, moi, la norme de l'idée vraie donnée ou possible, parce que justement, ça n'est pas une certitude. Et s'appuyant sur cette idée vraie, Descartes va jusqu'à prouver, dit-il, croit-il, l'existence de Dieu. Alors évidemment, je ne crois pas à ses preuves. Je ne connais aucun philosophe qui y croit vraiment. Mais elles sont géniales. Elles sont géniales. Et donc, on peut admirer le génie, la profondeur, la rigueur, l'intelligence formidable de ce type. Et puis en plus, il est extrêmement sympathique. Descartes, c'est un homme qu'on aurait aimé connaître. Voilà. Mais donc, ça veut dire que quand vous faites cours en terminale, pendant des années, vous revenez au classique. Et donc, ça m'a conforté dans mon choix que j'avais fait quand j'étais normal dessus, choisir plutôt les anciens et les classiques plutôt que les contemporains. Et donc, les livres que j'ai faits, et je crois que c'est ça qui explique en partie leur succès, ils ont été nourris par ces cours multiplement répétés que je faisais sur les grands classiques.
Et donc, de plus en plus pédagogiques, de plus en plus accessibles.
Voilà, de plus en plus ancrés dans une tradition. Voilà, quand j'écris de façon un peu atemporelle, intempestive, comme dirait Nietzsche, je crois que du coup, mes livres ont moins vieilli que les livres de l'époque qui étaient tellement plus inscrits dans les débats de la contemporanéité.
Qui peuvent paraître effectivement anachroniques, alors que quand on lit vos textes, André Comte-Sponville, effectivement, quand on s'empare de la question du bonheur, on peut se dire que là, on est dans l'inactuel, dans l'intemporel. Mais si vous avez tant aimé écrire sur les anciens, sur les classiques, pourquoi vous avez arrêté d'enseigner alors? Parce que c'est un plaisir d'enseigner non seulement à des terminales, mais après à l'université, parce qu'en 1984, vous rentrez à la Sorbonne pour devenir maître de conférence. Là, c'est un plaisir de discussion, c'est un plaisir de presque plus de recherche. Les élèves sont là par choix.
C'est un beau métier, je dis en commençant, mais c'est un métier. C'est-à-dire de la fatigue, c'est-à-dire une contrainte. Alors, s'il y avait que les cours encore, ça irait, ça peut être un moment agréable, et plus agréable à la Sorbonne que dans un lycée, parce que le niveau n'est pas le même. Mais il faut corriger les copies, si vous voulez. Moi, j'ai corrigé, comme tout prof, des milliers de copies, et je ne connais pas de travail plus décourageant que ça. Parce que vous avez fait un cours que vous croyez bon, et quand vous voyez le résultat dans...
C'est ça qui vous a déprimé?
Oui, mais...
Pas déprimé, usé.
Pas que j'étais à me déprimer, j'étais un prof heureux, mais je voulais écrire. Et ça veut dire que vous passez 15 jours, je me souviens des vacances, je faisais un cours d'agrég à la Sorbonne, pas rien. Je donne un devoir à faire aux étudiants, un devoir sur table, 7 heures. 80 copies d'étudiants agrégatifs, ça m'a pris 15 jours de vacances de Pâques. J'ai passé mes 15 jours de vacances, on passait à corriger des copies. J'ai donc pas écrit une ligne. Et moi, ma vie, c'était d'écrire, c'était pas de corriger des copies. Voyez. Et donc, voilà, enseigner, c'est un beau métier, mais c'est un métier. Le problème d'un métier, c'est que ça sert à gagner sa vie. Si on peut gagner sa vie autrement, spécialement en publiant des livres, ce qui est autrement intéressant, créatif, agréable, on aurait tort de s'en priver. Voilà. Donc j'étais content d'enseigner. Aucun autre métier ne m'aurait plu autant, si vous voulez, mais j'étais très content de ne plus enseigner pour pouvoir consacrer ma vie à l'écriture. Ce dont je rêvais quand j'avais 16 ou 18 ans, et que je n'aurais jamais osé envisager quand j'en avais 25 ou 30. Et pourtant, grâce au succès du Petit Traité des Grandes Vertus, ça m'est tombé dessus.
On va revenir sur ce succès, André Comte-Sponville, mais vous avez dit lors de notre premier entretien que vous étiez un élève médiocre. En fait, l'école, tout ça, ça c'est pas vraiment non plus une institution qui vous plaît en tant que telle. C'est-à-dire que vous y avez découvert l'amitié, l'amour, la joie. Après, vous avez eu du plaisir à enseigner dans une certaine mesure. Mais c'est pas non plus quelque chose, un lieu qui vous transporte.
Non, parce que j'ai des professeurs eux-mêmes plutôt médiocres, finalement. Quelque chose qui est... Une partie de mon rapport au christianisme, qui est un rapport de distance, mais aussi de gratitude. J'étais un jeune chrétien, il m'en reste quelque chose. Et dominé par le fait que pendant toute mon adolescence, je n'ai rencontré que deux adultes vraiment admirables. C'était les deux aumôniers que j'ai eus successivement au lycée. Le père Jaffrès, le père Bernard Feuillet, qui étaient tellement mieux humainement que tous les profs que j'avais, si vous voulez. Moi, les profs étaient médiocres, je leur prêtais un intérêt médiocre. Donc j'avais des notes médiocres, sauf en terminale. D'abord, je tombe sur un professeur formidable, Pierre Hervé, professeur de philosophie, par ailleurs héros de la résistance, ancien militant communiste, ayant quitté le Parti communiste au moment du 20e congrès du PCUS. Et là, tout d'un coup, je cartonne. C'est-à-dire que pour la première fois, j'ai toujours la meilleure note de la classe, et presque toujours avec plusieurs points d'écart par rapport au second, si vous voulez. Voilà, et c'est là où tout d'un coup, je suis devenu un très bon élève, mais en philosophie. Avant, j'étais plutôt bon en français, mais à tout le reste, je ne travaillais pas. J'étais plutôt paresseux, indiscipliné. Je ne m'en vante pas. Maintenant, t'as très à faire. Je travaillerai beaucoup plus et beaucoup mieux que je ne l'ai fait à l'époque. Mais c'est comme ça. Voilà. Et c'est la philosophie que je découvrais dans l'enthousiasme qui a fait que je suis devenu un bon élève. Et donc, du coup, j'ai été admis en Hippocagne, en Cagne, au lycée Louis le Grand, qui était à l'époque le lycée avec Henri IV le plus prestigieux. Et ce qui est étonnant, c'est que j'ai été un bien meilleur élève à Louis le Grand, parmi des têtes de classe, que je ne l'étais au lycée François Villon, porte devant, dans un lycée tout à fait banal. Mais parce que, voilà, la philosophie m'avait intellectuellement réveillé. Et puis surtout, je me suis mis à travailler. Parce que là, pour le coup, en prépa, j'ai beaucoup travaillé.
Oui, donc il y a eu aussi, on l'a évoqué très rapidement, hein, l'école normale supérieure, le doctorat, l'agrégation. Vous voici enseignant, vous enseignez. Et puis donc, en 95, sort ce petit traité des grandes vertus. Dans quel état d'esprit vous l'avez écrit? Pourquoi vous l'avez écrit? Et qu'est-ce qui a fait que tout à coup, alors que vous avez commencé à écrire au milieu des années 80, ce livre-là a cartonné?
Alors d'abord, ça n'est pas mon premier livre, contrairement à ce que beaucoup croient. C'était bien que vous savez que ça n'est pas le cas, mais ça doit être le cinquième, sixième, septième livre, je ne sais plus bien, qui est un traité de morale.
Votre cinquième livre.
Un traité de morale. Et pourquoi je l'ai écrit? Parce que je constatais qu'il y avait un problème pour les gens de ma génération vis-à-vis de la morale, c'est-à-dire que on avait tous fait profession d'immoralisme. Moi, je me revois encore le meilleur ami des années de prépa et de rudune, je le revois me dire le regard clair, moi, mon vieux, je n'ai aucune morale. Et l'estime que j'avais pour lui s'en est trouvée considérablement augmentée. C'était un type charmant, délicieux, il n'aurait pas fait de mal à une mouche, vous voyez, mais il était persuadé de n'avoir aucune morale. On voulait vivre sans temps mort, jouir sans entrave. C'était la formule de 68. On lisait Nietzsche, on se voulait immoraliste, on voulait renverser toutes les valeurs, etc., etc. Et puis on fait des enfants. On fait des enfants et on découvre, un, qu'il n'est pas interdit d'interdire, qu'il est même interdit de ne pas interdire, qu'on ne peut pas vivre sans temps mort, encore moins jouir sans entrave. Il suffit d'avoir des enfants pour comprendre que tout ça est idiot, si vous voulez. Qu'on doit évidemment leur transmettre des valeurs. Quelles valeurs? Et là, on découvre, avec surprise, perplexité, exactement les valeurs que nous avons reçues. Ces bonnes vieilles valeurs judéo-chrétiennes dont on disait pique-pente depuis notre enfance et dont on redécouvrait la pérenne actualité. Alors, ce qui a joué un rôle dans ce cheminement-là, qui en rallume un peu l'esprit, c'est une fois, donc j'étais jeune prof de philo à Landrecy, je pense, puis je venais à Paris en week-end, et à un moment, je descends le Boulmich, je croise un ancien copain d'Hippocagne et de Cannes, qui était Claude Birman. On ne s'était pas vu depuis des années, donc on prend un verre ensemble face à la Sorbonne, on fait le bilan de nos vies.
Qui est Claude?
Claude Birman. Un spécialiste réputé maintenant de la tradition juive. Et donc, on prend un pot, on fait le bilan de nos vies. Je me suis marié, j'ai fait un gosse, j'ai écrit un bouquin, etc. Et puis, Claude ajoute un moment, mais il y a autre chose, maintenant, je retourne à la synagogue. Je lui dis, ah bon, t'étais juif? Il me dit, je le suis toujours. Je lui dis, oui, mais t'en parlais jamais, comment tu veux que je le sache? Il me dit, avec le nom que je porte. Je lui dis, écoute, attends, sauf à être juif ou antisémite, ou sauf à s'appeler Lévi ou Cohen, mais un nom, ça ne dit rien. Pour moi, Birman, c'était ni juif, ni autre chose. Mais surtout, ce qui m'éteint, je lui dis, mais alors maintenant, tu crois en Dieu? Parce qu'à l'époque, en Hippocagne, il était aussi athée que moi. Et Claude a un charmant sourire et me dit, tu sais, pour un juif, croire ou pas en Dieu, c'est pas la question vraiment importante. J'étais scié. Donc pour quelqu'un qui a été élevé dans le catholicisme comme moi, croire ou pas en Dieu, c'est la seule question importante. Et Claude m'explique que pour un juif, comme il disait, c'est pas la question importante parce que il est pas très raisonnable d'accorder tellement d'importance à une question en vérité indécidable. Dieu existe-t-il ou pas? Et donc faire dépendre toute notre vie de la réponse qu'on apporte à une question dont on ne connaît pas en vérité la réponse vraie. Et donc m'explique-t-il, pour le dire dans les termes de la tradition, le judaïsme, ce n'est pas une orthodoxie qui dit comment il faut penser, c'est une orthopraxie qui dit comment il faut agir. Et que donc il s'agit de transmettre à ses enfants quelques règles de vie, comme disait Spinoza, c'est-à-dire une morale. Et Claude me dit que nous, c'est nous les juifs, on dit toujours que le juif, c'est pas celui dont les parents sont juifs, c'est celui dont les enfants sont juifs. On dit celui qui est capable de transmettre une certaine culture, une certaine tradition. partant de ce moment au bistrot avec Claude, me dit, mais au fond, il a raison. Et cette fameuse morale judéo-chrétienne dont effectivement, moi-même, j'ai dit pique-pente depuis des années, mais au fond, si je réfléchis à ce que j'ai lu dans les évangiles, qu'est-ce qui peut bien me gêner maintenant dans le message évangélique? Ou quand je lis l'Ecclésiaste, qui est la partie, le livre de la Bible de très loin que je préfère, pourquoi ne pas reconnaître que je m'y reconnais précisément, oui. Et donc, je suis devenu ce que j'ai appelé un athée non dogmatique et fidèle, pour résumer mes propositions. Athée, mes positions, athée parce que je ne crois en aucun Dieu, non dogmatique parce que je reconnais que mon athéisme n'est pas un savoir, c'est une opinion, une croyance, une conviction, mais surtout athée fidèle parce que tout athée que je sois, je reste attaché à ces valeurs morales, humaines, qui ont été transmises pendant des siècles par les religions, bien souvent, et spécialement, puisque c'est mon histoire, par la tradition judéo-chrétienne. Voilà. Et donc, cette conversation avec Claude m'a aidé à me réconcilier avec mon enfance pieuse et à comprendre que cesser de croire en Dieu, ça n'oblige pas à jeter le bébé avec l'eau du bain, ça n'empêche pas de transmettre à ses enfants les valeurs qu'on a reçues, qui en effet, pour moi, étaient les valeurs judéo-chrétiennes, mais qui sont en vérité les valeurs de notre civilisation.
Et c'est là où intervient ce terme de vertu, André Comte-Sponville.
Alors oui,
c'est là où vous avez parlé d'éthique, là on parle de morale, on peut faire quand même la distinction entre les deux, mais néanmoins vous décidez d'écrire des textes qui non seulement concerneront la vie quotidienne, parce que ça ne vous intéresse pas de parler de la vie, du bonheur comme de la félicité, et qui concerneront aussi ces questions-là de mise en œuvre.
Alors le choix de traiter des vertus, c'est un choix polémique contre Kant. Les Kantiens auraient fait un traité des devoirs. Je ne crois pas aux devoirs. Je ne crois pas à un commandement inconditionnel. Je ne crois pas à l'impératif catégorique. Je crois à la vertu, c'est-à-dire une façon, une excellence, ça c'est le sens du mot arrêté en grec, traduit par vertu, une façon de faire bien l'homme et dûment, comme écrit Montaigne dans les Essais. Hein. Il n'est rien si beau et légitime que de faire bien l'homme et dûment. Qu'est-ce que c'est qu'une vertu? C'est quelque chose qui nous permet de faire bien l'homme. Et donc, j'ai fait ce livre de traité des vertus qui a eu du succès parce que justement, tous les gens de ma génération qui avaient fait des gosses aussi, qui voyaient bien qu'ils devaient leur transmettre des valeurs, mais qui ne savaient plus trop quelles valeurs transmettre, je leur relivrais les valeurs de la tradition judéo-chrétienne occidentale, mais tout en m'appuyant sur des textes bouddhistes ou autres parfois. Il ne s'agit pas de s'enfermer dans l'Occident, mais voilà. Je rendais disponible des trésors accumulés par 25 siècles de civilisation et de philosophie. Et donc, c'est un livre de morale qui est paru au moment où les gens comprenaient qu'au fond, on avait eu tort de prétendre se passer de morale, qu'au fond, l'immoralisme ne tenait pas la route. Et d'autant plus qu'au même moment, politiquement, l'extrême droite se développait formidablement. C'est les années où Le Pen, père, faisait des scores sans précédent aux élections. Or, c'est aussi pour ça que j'écris ce petit traité des grandes vertus. Nos principales raisons de combattre l'extrême droite sont des raisons morales. Et donc, il y avait un paradoxe quand mon meilleur ami me disait « Moi, mon vieux, je n'ai aucune morale. Mais bon sang, pourquoi est-ce que tu combats l'extrême droite, le racisme, l'antisémitisme, tout ça
est absurde. » Tout en disant immoral.
Et donc, j'ai fait un traité de morale et pas du tout un traité du bonheur. Parce que dans notre première émission, vous présentiez le petit traité comme un livre sur le bonheur. Il n'y a pas de chapitre sur le bonheur. C'est un livre de morale. Et qui a eu d'autant plus surpris qu'on n'en parlait plus, là encore, depuis des années. Si on laisse de côté Yankelevitch, mais qui avait eu très peu de succès à l'époque, dans son propre traité des vertus. Voilà, c'est un livre qui paraissait à nouveau anachronique. En plus, ce mot de vertu, que dans ma tête, ça voulait dire que ce n'est pas une philosophie des devoirs, c'est une façon de jouer Aristote contre Kant, ou Spinoza contre Kant.
Mais
ce mot de vertu qui paraissait tellement obsolète, tellement démodé, les gens étaient d'autant plus surpris. Et puis quand ils l'ont lu, ils ont découvert que ça parlait au fond de leur vie, ça parlait de la condition humaine telle qu'elle est, et que ça pouvait les aider à vivre un peu mieux.
Et puis ça, vous l'aviez en tête, cet appareillage conceptuel, Aristote, voilà, mais quand on est en librairie et qu'on achète un livre qui s'appelle « Le petit traité des grandes vertus », qu'en fait, il me semble que vous avez vendu ce livre à plus de 350 000 exemplaires, on n'a pas en tête forcément ça, Aristote, ni rien. Et pourtant, ça nous parle. Alors, vous dites que vous n'y abordez pas la question du bonheur. Effectivement, ça parle de la prudence, ça parle de l'humour, de la tolérance. Il n'y a pas d'entrée bonheur, mais tout ça est un livre pour bien vivre. Vous avez décidé quand même d'écrire de la philosophie pour bien vivre.
Qu'est-ce que c'est qu'une vertu ? C'est ce qui nous permet d'être un type bien.
Voilà.
Une femme bien. Et donc, c'est une question très, très importante.
Parce que d'où le fait que ça ait touché autant de monde, en fait.
Ce qu'on veut pour nos enfants, ce petit traité est dédié à mes trois fils. Hein, parce qu'après la mort de notre fille, on a eu trois garçons. Ce livre est dédié à mes trois fils, et pour des raisons évidentes. Il s'agit de transmettre. Voilà, une vertu, c'est ce qui permet de vivre bien, d'être quelqu'un de bien. Et ce qu'on souhaite pour nos enfants, c'est que ça soit un homme bien, une femme bien, et donc que ce soit quelqu'un de vertueux. Et voilà. Alors, ce livre que j'ai écrit assez facilement, assez rapidement, moi, ça a dû me prendre une année à peu près en tout. Sincèrement, j'en étais content. Vous voyez bien que c'était un bon livre, à la fois savant, solide dans ses références, mais avec une espèce de bonheur d'écriture. Je dis bien que ça correspondait à un besoin de l'époque. Et donc, j'avais dit à...
Comment vous avez su que ça correspondait à un besoin de l'époque alors que c'était justement si anachronique?
Mais pour les raisons que j'évoquais, c'est que je savais bien que les gens autour de moi, ils avaient des enfants et qu'ils voulaient transmettre des valeurs à leurs enfants. Pourtant, il fallait que faire le deuil de 68, enfin, faire le deuil...
C'était le bon moment, vous pressentiez que là...
Non, pas de 68 comme politique, mais de faire le deuil de l'immoralisme prétendu des années 68. Donc, se réassumer l'idée que oui, nous avons besoin d'une morale, d'abord... pour interdire le pire. C'est ça le véritable enjeu de la morale. Et donc, j'avais dit à ma compagne, c'est vraiment un bon livre. Avec un peu de chance, on va en vendre 100 000 exemplaires. Ce qui n'arrive jamais de vendre 100 000 exemplaires de philosophie. Et on a vendu, vous dites, 350 000. Moi, j'étais resté à 300 000. Alors, peut-être 350 000 si on ajoute les livres de poche. Mais uniquement en France, si vous voulez. 300 000 avant les poches. Donc, c'était totalement... inattendu, mais quand j'avais dit avec un peu de chance on va en vendre 100 000, ça veut dire que je savais malgré tout que c'était un bon livre qui arrivait au bon moment. Alors après, il y a les hasards de l'époque, il y a eu une bonne presse, Pivot m'a invité à Apostrophe, c'était la première fois, alors évidemment à l'époque, c'était la grande époque d'Apostrophe, en plus c'était l'émission, j'étais passé juste après François Mitterrand qui avait fait l'émission 8 jours plus tôt, j'étais le seul invité, ou du moins l'invité principal, il y avait deux, trois de mes amis m'accompagnaient, mais j'étais l'invité principal, donc c'est un livre qui a eu aussi de la chance, hein, notamment... passer chez Pivot, c'est pour un livre de philosophie, c'était une grande chance. D'ailleurs, Pivot, qui était un homme délicieux, mais qui n'aimait pas vraiment la philosophie, son truc c'était plutôt l'histoire ou la littérature que la philosophie, il ne voulait pas m'inviter au départ. Il l'avait fait parce que le livre avait tellement de succès qu'il devenait difficile de ne pas m'inviter. Mais le fait qu'il m'invite a redoublé encore le succès. Et donc, j'ai gagné tellement d'argent avec ce traité des grandes vertus. En plus, moi, à l'époque, j'étais prof, j'étais déjà propriétaire de ma résidence principale, que je pouvais me passer de salaire pendant des années. Et quand on n'a plus besoin de salaire, c'est une très bonne raison d'arrêter son métier.
Et si vous n'aviez plus...
pour se consacrer à sa vocation.
Voilà, mais vous n'avez pas eu peur ? Si vous n'aviez plus eu de succès après ?
Mais je me suis pas arrêté définitivement. J'ai demandé ce qu'on appelle une mise en disponibilité pour un an. Ça veut dire plus d'enseignement, plus de salaire, évidemment. Renouvelable d'année en année. Et donc chaque année, je faisais une nouvelle demande de disponibilité. Comme on a droit à 6 années sur toute la carrière de disponibilité, au bout de la 6e année, il a fallu que je choisisse entre la démission et la réintégration. Mais là, ça faisait 6 ans que je vivais de ma plume et des conférences que je faisais ici ou là en dehors de l'université, que je vivais plutôt bien. Donc le risque n'était pas si considérable que ça, et je suis très content de l'avoir pris. D'ailleurs, plusieurs de mes collègues qui ont beaucoup souffert à l'université me disent à quel point ils trouvent que j'ai eu raison de quitter la chose.
Alors justement, vous avez dit au début de cet entretien, André Comte-Sponville, que être enseignant, c'était un métier. Mais vous avez fait de la philosophie un métier. Vous êtes devenu philosophe. Vous avez exercé ce métier-là à travers des conférences, l'écriture de livres, avec par exemple aussi participer à des émissions, écrire des papiers. Vous avez professionnalisé en fait ce métier-là à une époque dans les années 90 où en fait la philosophie, on l'enseignait.
Oui, alors c'est un métier et une vocation. C'est d'abord une vocation pour moi, mais aussi un métier. Là. Dans l'écriture, oui. Dans les conférences, oui. Dans les médias, beaucoup moins quand même. J'ai pas envie de passer à la télé pour commenter l'actualité. Ça, c'est pas mon métier. Si vous m'invitez pour parler philosophie, ça, oui, on peut le faire, y compris à la télévision. Vous voyez, mais c'est quand même l'exception. Pour faire de la philosophie, ça ne peut se faire qu'avec des discours et des raisonnements, comme disait Épicure, c'est-à-dire qu'en parlant ou en écrivant. Écrivant, c'est faire des livres, éventuellement des articles. Parler, c'est faire des conférences, parce qu'il n'y a que là qu'on a le temps de bâtir un raisonnement. Et il se trouve, c'est devenu un métier parce que ça m'a permis de gagner ma vie. Et donc, dès lors que je peux gagner ma vie par ma plume et par ma parole, par mes conférences, encore une fois, j'aurais été bien sot d'y renoncer, puisque cessant d'enseigner, n'ayant plus de copies à corriger, j'avais beaucoup plus de temps pour écrire. Et puis, il y a autre chose, c'est que, en tant qu'enseignant, je m'interdisais de faire cours sur ma philosophie. Des fois, mes étudiants à la Sorbonne s'en étonnaient. Ils savaient que je publiais, ils me voyaient des fois à la télé, ils me disaient « Mais vous parlez jamais de votre philosophie ?» Je leur répondais « Mais je ne suis pas payé par l'État pour parler de la pensée d'André Comte-Sponville, ce qui me paraîtrait totalement obscène ou dérisoire. Et donc, je faisais cours délibérément sur les grands auteurs du passé. Platon, Aristote, Descartes, Spinoza, Kant,
etc. » Qui par ailleurs nourrissait votre propre philosophie.
Qui par ailleurs nourrissait ma pensée. Mais là, je me mettais à leur service. Alors que dans mes livres ou dans les conférences que je fais, c'est l'inverse. Je mets les grands auteurs à mon service. Je les utilise pour développer ma propre philosophie. Et donc, c'est aussi pour ça que je disais regretter d'avoir arrêté d'enseigner, c'est que c'est bien plus satisfaisant intellectuellement de parler de sa philosophie que de parler de la philosophie des grands auteurs du passé, et de mettre les grands auteurs du passé à son service plutôt que de se mettre soi à leur service. Voyez. Et donc, voilà, il y a quelque chose de plus créatif, de plus satisfaisant, de plus gratifiant dans l'écriture ou dans les conférences que dans l'enseignement, où il y a une part d'humilité obligée. Encore une fois, j'avais raison de ne pas parler de ma philosophie et de parler à la Sorbonne ou au lycée de la philosophie des autres, des grands auteurs du passé.
Une dernière question, André Comte-Sponville. Vous venez d'employer le terme d'humilité. Est-ce qu'on vous a reproché de quitter l'enseignement pour faire votre philosophie? Est-ce que d'une certaine manière, vous avez trahi aussi, en fait, ce qu'on considère comme un très beau métier, celui d'enseigner, pour pouvoir, en fait, gagner de l'argent avec vos livres et de manquer d'humilité?
Non, avec les livres, non, personne ne me l'a reproché. Beaucoup de collègues m'ont envié. Non, ce que certains m'ont reproché, c'est de faire des conférences rémunérées en dehors de l'université. Mais moi, je trouve que tout travail mérite salaire et que ça vaut, y compris pour une conférence de philosophie. Alors ça, certains m'ont le reproché, surtout que c'est des conférences dans le monde de l'entreprise. Alors, à la Sorbonne, moi, j'étais à Paris, à une fac de gauche. Le monde de l'entreprise, ça passe...
C'est de la corruption, en fait.
Ça passe un peu pour l'enfer, pour le diable. Je trouve ça idiot, évidemment. Hein, mais alors, tous mes collègues ne l'ont pas reproché. Même la plupart ne l'ont pas du tout reproché. Mais certains, en effet, trouvaient que c'était se compromettre que de faire de la philosophie dans le monde de l'entreprise. Ils ont le droit de le penser. Je suis convaincu du contraire, parce que je pense que quand j'ai fait de la philosophie, alors là encore, c'est un métier. Hein, je le fais parce que même que je gagne ma vie, si je gagnais au loto, auquel je ne joue pas, je ne ferais plus de conférences rémunérées. Mais il se trouve que je ne joue pas au loto et qu'il faut que je gagne ma vie, puisque ayant arrêté d'enseigner donc en 98, j'avais 46 ans. Vous doutez bien que ma retraite est quand même légitimement très diminuée. Alors, je ne m'en plais pas du tout. C'est tout à fait normal. Mais donc, il va de soi qu'il faut quand même que je complète ça par d'autres revenus. Quand les livres y suffisent, ça me réjouit profondément. Quand les livres n'y suffisent pas, je n'ai aucune gêne à compléter ça par des conférences rémunérées.
Merci, André Comte-Sponville. À demain pour la suite de ces entretiens.
À demain.
C'était À Voix Nue, réalisation Luc-Jean Reynaud, prise de son Patrick Muller, chargé de programme Daphné Abgral, une série de Géraldine Mosna-Savoie, disponible sur franceculture.fr et l'application Radio France.